Vous écoutez, on lit pour vous.
La qualité des services de garde du Québec en chute libre. Un texte de Marie-Michèle Sioui, paru le 23 mai 2024 dans Le Devoir. Le tiers des services de garde du Québec, 29%, n'atteint pas les standards de qualité du ministère de la Famille et celui-ci fait des suivis insuffisants et inefficaces dans les installations délinquantes, constate la vérificatrice générale, VG, du Québec, dans son rapport annuel, déposé jeudi à l'Assemblée nationale. Les taux d'échec à l'évaluation de la qualité éducative ont explosé au cours des dernières années. Ils ont atteint 59 % en 2022-2023 dans les garderies privées non subventionnées et 57 % dans celles qui sont subventionnées. Le taux d'échec est aussi passé de 8 % en 2019-2020 à 21 % en 2022-2023 dans les centres de la petite enfance, CPE. Dans 20 % des inspections effectuées en service de garde, il y avait un problème avec la vérification des antécédents criminels. Vérification de l'absence d'empêchement, a aussi relevé la vérificatrice générale. On n'est pas capable de savoir actuellement, avec les données dans le système, si c'était un problème grave ou si c'était somme toute mineur, par exemple un simple retard dans la réception d'un document, a souligné la vérificatrice générale adjointe Caroline Rivard. En outre, 26 % des CPE ayant effectué des tests de plomb à la demande du ministère ont détecté ce métal dans leur eau. Des reportages ont par le passé fait état de taux de plomb si élevés qu'il posait des risques pour le développement cognitif des enfants. Dans les garderies privées, les taux sont moins importants, de 20 % et de 7 % en milieu subventionné et non subventionné, respectivement. Les taux de participation aux tests de plomb sont cependant variables, 90 % dans les CPE, 81 % en garderies subventionnées et 75 % en garderies non subventionnées. Ici, comme dans le cas des évaluations de la qualité éducative des services de garde, le ministère de la Famille effectue un suivi minimal. Il ne demande pas, par exemple, qu'un test de plomb soit effectué avant qu'un permis soit délivré, pas plus qu'il vérifie si les filtres réducteurs de plomb pour les robinets, dont il finance l'achat, sont bel et bien installés lors de ses inspections. Le tiers en échec. Quant au taux d'échec des évaluations de la qualité éducative, le ministère s'attendait à ce qu'il passe à 18 % entre 2019 et 2023. Le taux d'échec cumulatif a plutôt été de 29 % entre 2019 et 2022 et de 41 % en 2022-2023, note la vérificatrice générale. Le ministère a évalué 1634 installations sur une période de 4 ans en ciblant des groupes d'enfants âgés de 3 à 5 ans. On a identifié une corrélation entre le taux d'échec et le ratio d'éducateurs qualifiés, a souligné la vérificatrice générale Guylaine Leclerc. Son rapport souligne que la diminution des ratios peut avoir contribué à la baisse de la qualité éducative. Pendant la pandémie de COVID-19, Québec a abaissé ses exigences en matière de personnel qualifié dans les services de garde. Il a choisi, en 2023, de maintenir un ratio d'une éducatrice qualifiée sur deux auprès des enfants jusqu'en 2027. Or, le ratio de deux éducatrices qualifiées sur trois souhaitées pour 2027 est pratiquement impossible à atteindre, vu la faible proportion de travailleuses qualifiées dans le réseau, a commenté Mme Leclerc. Avec son « opération main-d'œuvre » qui vise l'embauche de 24 000 éducatrices d'ici 2026, le ministère de la Famille se targue de voguer vers son objectif d'embauche, mais sa cible combine le personnel qualifié et non qualifié, relève le rapport. Cette opération ne permet donc pas de résorber la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, souligne la vérificatrice générale. Fait à noter, le gouvernement a réduit en 2021 les critères menant à l'obtention du statut d'éducatrice qualifiée en éliminant entre autres l'exigence de détenir un diplôme collégial en éducation à l'enfance. Pas d'urgence, pas d'action. La vérificatrice générale rapporte aussi que le ministère de la Famille a reçu plus de 1100 plaintes portant sur plus de 2000 motifs différents en 2022-2023. Celui-ci a par ailleurs renoncé au système qui lui permettait auparavant de déterminer si une plainte était prioritaire ou urgente. Résultat, entre 2018-2019 et 2022-2023, le nombre de plaintes classées prioritaires est passé de 206 à 6, a constaté la vérificatrice générale. Les plaintes urgentes ont disparu, passant de 10 à 0. Ces plaintes urgentes commandaient auparavant une action dans les 24 heures et les prioritaires dans les 10 jours. Maintenant que le ministère ne classe plus les plaintes par ordre de priorité, des plaintes peuvent ne pas être traitées en temps opportun, constate la vérificatrice générale. Elle a souligné l'importance de s'assurer que la classification est faite adéquatement. Son rapport révèle aussi que dans la moitié des cas de plaintes pour attitude ou pratique inappropriée, le ministère de la Famille s'est contenté d'un rappel des bonnes pratiques, sans vérification des allégations. Des suivis inefficaces. La vérificatrice générale qualifie les suivis effectués par le ministère de la Famille d'insuffisants et d'inefficaces. Le rapport indique que le ministère n'a pas réalisé d'intervention dans le cas de 13 des 34 situations pour lesquelles il avait reçu une alerte, envoyée lorsque la qualité éducative d'un service de garde est jugée préoccupante. Dans 31 de ces 34 cas, il n'a pas non plus reçu, malgré la gravité des situations signalées, le plan d'action que peut exiger le ministère de la part d'un service de garde. Quand le ministère a bel et bien fait des suivis, ceux-ci étaient limités et consistaient, dans près de la moitié des cas, à une seule communication, souvent par téléphone, plusieurs mois après l'évaluation. La vérificatrice générale qualifie le suivi effectué par le ministère d'insuffisant, d'autant que ces vérifications sont obligatoires en vertu de la loi, rappelle-t-elle. En général, le ministère exige, depuis juin 2022, que tous les services de garde ayant échoué à l'évaluation de la qualité éducative transmettent un plan d'action. Entre juin et novembre 2022, 64 de ces plans ont été demandés. Seulement 40 ont été envoyés. Le ministère s'est aussi rendu compte, à la suite des demandes de la vérificatrice générale, qu'une de ses directions régionales n'avait exigé aucun plan d'action, bien que 16 de ses services de garde aient échoué à l'évaluation en 2022. La vérificatrice générale souligne que les résultats des évaluations en services de garde ne sont pas rendus publics et ne le seront pas avant 2028 en vertu de modifications législatives adoptées en 2022. Une des choses importantes, c'est de faire des évaluations, mais aussi de voir à ce qu'on soit informé, a rappelé Mme Leclerc. En milieu familial, le ministère n'a pas commencé à réaliser l'évaluation de la qualité éducative. Il n'a pas, non plus, planifié quand elle débutera. La dernière évaluation de ce genre remonte à 2003. Les milieux familiaux non reconnus seront illégaux à compter du 1er septembre 2026. Tir nourri des trois partis d'opposition. Les trois partis d'opposition ont cherché à obtenir des réponses au sujet de la qualité des services de garde lors de la période des questions. Jennifer Macaroni, du Parti libéral, s'est inquiétée des constats vraiment alarmants de la vérificatrice générale. On parle de tous les résultats sous le gouvernement de la CAQ de 2019 jusqu'à 2023, a-t-elle souligné, en faisant référence à la période étudiée dans le rapport. Ces milieux accueillent plus de 100 000 de nos enfants chaque année. C'est inacceptable, a aussi lancé Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire. Le gouvernement veut faire vite, mais pas nécessairement faire mieux, a aussi dénoncé Joël Arsenault du Parti québécois. L'Observatoire des tout-petits a également attiré l'attention sur cet enjeu de société en rappelant que 85% des enfants d'âge préscolaire passent 35 heures ou plus par semaine en service de garde. Ces conclusions sont des plus inquiétantes, alors que l'on sait que plusieurs études démontrent que la fréquentation d'un service de garde éducatif à l'enfance peut constituer un facteur de protection pendant la petite enfance, en particulier chez les enfants issus de milieux défavorisés, à condition qu'ils soient de qualité, a-t-il réagi. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a assuré son intention de continuer de travailler en collaboration avec l'ensemble du réseau à le développer et à en améliorer la qualité. Les milieux sont sécuritaires, a-t-elle attesté. Au sujet du manque de main-d'œuvre, elle a lancé un appel à la patience. Il y a du travail qui se fait, mais il faut donner le temps à ces mesures-là pour que ces dames, ces garçons puissent se qualifier. Mais d'ici là, on doit continuer à développer le réseau, a-t-elle affirmé. C'était « La qualité des services de garde du Québec en chute libre », un texte de Marie-Michel Sioui, paru le 23 mai 2024 dans Le Devoir.
Des bûcherons à Banff pour sauver le parc national. Un texte de Norimitsu Onishi, du The New York, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. Banff, Alberta. Les bûcherons sont passés par là, balafrant une forêt touffue, une bande de terrain d'un kilomètre et demi de long à flanc de montagne a été rasée. Seuls quelques chicots épars se dressent encore dans cet espace dégagé de 33 hectares. Un fin linceul blanc épouse la forme des traces de pneus laissées par la machinerie forestière. Le son des tronçonneuses est banal dans une forêt commerciale. Mais ici, nous sommes à Banff, dans le parc national le plus célèbre du Canada. La coupe à blanc était naguère inimaginable dans ce joyau verdoyant des Rocheuses, où la pratique a toujours été de tuer dans l'œuf tout incendie et de préserver chaque arbre. Stopper les incendies. Mais depuis les brasiers des dernières années, les gestionnaires de Banff font appel aux forestiers pour créer des coupe-feux, c'est-à-dire des zones tampons censées empêcher les incendies de forêt de se propager dans le parc et d'atteindre les villes avoisinantes. Ça donne des options aux pompiers si un incendie de forêt très intense se propage rapidement, explique David Tavernini, expert en incendie et en végétation à Parc Canada, tout en foulant le sol meuble de la forêt défrichée. Encore sous le choc de la pire saison d'incendie de forêt de son histoire, le Canada fait déjà face au retour des feux zombies, qui repartent après avoir couvé tout l'hiver et forcent des milliers de résidents à fuir des villes et villages dans l'Ouest. 18,5 millions d'hectares brûlés. Au sortir de l'hiver le plus doux enregistré au Canada, les populations vivant près des forêts se préparent à une nouvelle saison d'incendies de forêt, devenue plus fréquent et plus violent avec les changements climatiques. Des mesures anti-feu prévues de longue date, comme le pare-feu du parc de Banff en Alberta et d'autres projets à Banff même, ont pris un caractère d'urgence. En 2023, le feu a détruit 18,5 millions d'hectares de forêt au Canada. C'est plus que le double du record établi il y a 20 ans. La fumée s'est rendue jusqu'en Europe. Les flammes se sont propagées de manière incontrôlée dans tout le pays, non seulement dans l'Ouest, mais aussi au Québec et dans les Maritimes, où des incendies d'une telle ampleur sont rares. Au printemps 2024, déjà, la sécheresse frappe l'Alberta. Dans les Rocheuses, Il est tombé exceptionnellement peu de neige, affirme l'hydrologue John Pomeroy, qui vit près de Banff et est directeur du programme Global Water Futures. Les conditions, si tôt dans l'année, semblent pires qu'en 2023, dit M. Pomeroy. Cela dit, bien des choses peuvent changer. En 2023, nous avons aussi connu une chaleur record et peu de pluie. Michael Flanagan, expert en gestion des incendies à l'Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique, est d'accord. C'est l'effet combiné de la chaleur extrême et de la météo inhabituelle qui a conduit aux incendies records de 2023. 2023 a été une aberration. Les probabilités que ça se répète sont minces, dit-il. Mais M. Flanagan note que les agences de lutte contre les incendies de forêt, qui auparavant n'embauchaient que du personnel saisonnier, dont beaucoup d'étudiants, commencent à employer des professionnels toute l'année, alors que la saison des incendies s'allonge. Feu zombie. En Colombie-Britannique, d'énormes feux zombies ayant couvé tout l'hiver ont repris, les pompiers n'ayant pu les circonscrire au printemps, dit M. Flanagan. La saison s'est terminée si tard l'an dernier que les pompiers n'ont pas eu le temps de finir le nettoyage. À Banff même, on a éclairci les boisés autour de la ville pour les rendre moins inflammables. Selon Ross Jayer, chef des pompiers, les tisons projetés par le mur de feu qui avance peuvent flotter dans l'air sur 2 kilomètres, survoler les cours d'eau et allumer d'autres brasiers. La population de Banff est de 9 000 habitants, mais gonfle à 40 000 certains week-ends d'été. Les pompiers doivent protéger résidents et visiteurs. Au parc national de Banff, créé en 1885, le plus ancien au Canada, la politique était, jusqu'en 1983, d'étouffer dans l'œuf tout incendie, au lieu d'opter pour une approche concertée afin de les prévenir ou les gérer. Résultat, la forêt dense est aujourd'hui dominée par les conifères et extrêmement inflammable. Les photos anciennes, avant la création du parc, montrent une plus grande variété d'essences et davantage de clairières, explique M. Tavernini, l'expert en incendie de Parc Canada. Autrefois, la forêt était régulièrement éclaircie par les incendies allumés par la foudre et par les brûlages dirigés pratiqués par les Autochtones de la région. Ces dernières années, il y a eu des brûlages contrôlés dans divers parcs. Le coupe-feu de 33 hectares réalisé en 2023 le long d'une route dans le parc de Banff est visuellement spectaculaire et particulièrement impressionnant. Un deuxième est prévu près du célèbre lac Louise. Les travaux pourraient commencer en 2024. Un autre coupe-feu, plus vaste encore, a été réalisé à l'hiver 2023 au parc national de Yoho, qui jouxte Banff de l'autre côté de la frontière provinciale en Colombie-Britannique. Une société forestière a coupé les arbres sur les deux premiers sites en échange du bois. De surcroît, Parc Canada a touché une partie des 80 000 $ de la vente du bois d'œuvre obtenu de la récolte, affirme Shelley Tamlin, chef de projet en réduction des risques d'incendie de forêt à Parc Canada. Ces bandes dégagées sont des lignes défensives contre la progression des incendies. Les pompiers peuvent s'y déployer et attaquer directement les flammes en puisant de l'eau dans les plans d'eau avoisinants. Mais la coupe à blanc dans ces forêts chères à la population est un sujet délicat. Les responsables en sont conscients. on essaie de choisir des périmètres où couper le moins d'arbres possible permet de créer le dégagement le plus vaste possible, a déclaré Mme Tamlin. C'était des bûcherons à Banff pour sauver le parc national. Un texte de Norimitsu Onishi du The New York, paru le 16 juin 2024 dans La Presse.
Les quatre incontournables de la saison, littérature québécoise, une sélection d'Isabelle Beaulieu, Alexandra Mignot et Joséanne Paradis, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires. 1. Frappe à bord, Mireille Gagné, La Peuplade, 216 pages, $26.95. Mireille Gagné, poète et romancière née à l'Île-aux-Grues, avait embrassé un succès colossal avec son précédent roman, Le Lièvre d'Amérique. Avec autant de mentions et de prix l'ayant distinguée, la barre était haute pour épater à nouveau ses lecteurs. Mais voilà, la talentueuse autrice y est parvenue et s'est surpassée avec Frappe à bord, une puissante histoire mettant en scène le fragile équilibre du monde, mis à mal par la malveillance des hommes. Ce livre, dont plusieurs passages font habilement place à une écriture sensuelle, nous entraîne sur les berges du Saint-Laurent à deux époques dont les narrations s'alternent. On débarque d'abord en 1942, à Grosse-Île, aux côtés de l'armée américaine et d'une multitude de scientifiques tenus au silence. Parmi eux, Thomas, jeune entomologiste, qui y découvrira d'impressionnants frappe-à-bord se reproduisant au creux de plantes cadavres, une espèce à l'odeur pestilentielle. On plonge ensuite à l'époque contemporaine du côté de Montmagny, alors qu'une canicule sévit et qu'une étrange épidémie pousse les hommes à des états de rage jamais vus. On y suit Théodore et son grand-père dans une trame filiale riche en émotions. Alors que les deux histoires avancent et se déploient avec aisance, le lecteur, impatient de tourner les pages, voudra à tout prix comprendre ce qui s'est passé dans les années 1940, se doutant pertinemment de ses répercussions sur les étranges événements qui ont actuellement cours. Ici et là se trouve également, entre les pages de cet ouvrage, une narration au jeu portée par nul autre que l'insecte, dont l'espèce se multiplie à une vitesse inquiétante. La mouche noire qui se nourrit du sang épais et chaud des humains. 2. Ce désir me point, Claire Legendre, Le Méac, 160 pages, $17.95. S'identifier à ce qui nous manque est forcément délétère. Je suis celle qui a aimé, celle qui a souffert, celle qui est partie et qui erre. Je suis un désir béant. J'apprends, en l'écrivant, à chérir la plaie ouverte que je ne sais pas combler. Après Le nénuphar et l'araignée, dans lequel elle explorait les peurs, Claire Legendre décortique cette fois toutes les formes du désir, le sonde dans toute sa complexité. Que ce soit le désir de plaire, de posséder, celui de vouloir être désiré, l'amour ou son attente, le désamour, le célibat, les déceptions, le désir sexuel ou son absence, l'impossibilité du désir, les désirs non comblés ou les histoires impossibles, tout y passe. Avec une écriture ciselée et intime, ce livre lucide s'avère à la fois désarmant, confrontant et fascinant, voire un exutoire dans lequel il est possible de se reconnaître, qui peut mettre un baume sur les blessures du cœur et la solitude. 3. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme. Michel Lapierre d'Allaire, La Mèche, 210 pages, $22.95. Cette autofiction de Michel Lapierre d'Allaire, essentiellement centrée sur la relation à la mère, nous surprend, choque et interroge. La figure maternelle est l'objet d'adoration et, pour la narratrice, elle constitue à la fois sa raison de vivre et l'empêchement de son propre affranchissement, lequel pourrait la conduire à une pleine reconnaissance de soi. L'autrice se place dans une position de grande vulnérabilité en exposant les parts fragiles d'elle-même, son rapport au désir et à la sexualité, ses obsessions, les abus, l'automutilation, sa colère des hommes. Elle relate des événements significatifs, qu'il soit question des jeux avec ses Barbies, du comportement abject de son beau-père, du mensonge qui s'érige parfois en bienfaiteur, ou de sa recherche constante de l'amour et de l'assentiment de sa mère. Par cette mise à nu, l'écrivaine essaie de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ses pensées et ses actions et élabore une écriture de l'intime pertinente, en ce sens qu'elle parvient à réfléchir son interaction au monde. 4. La nébuleuse de la tarentule, Mélissa Véro, XYZ, 392 pages, $29.95. Après avoir notamment publié « Voyager léger », « L'angoisse du poisson rouge » et « Les voies de la disparition », Mélissa Véro revient avec un nouveau roman qui joue avec les frontières entre la réalité et la fiction. Mélissa, un seul S pour la narratrice, croise un amour d'adolescence qu'il avait rejeté à l'époque, avec qui elle noue une relation. Même si elle se sent coupable de mentir à son mari, elle plonge tête première dans cette aventure, comme un pied de nez à son passé, comme une façon de déjouer le présent, de s'extirper de ce quotidien parfois si pesant. Elle revisite des souvenirs d'enfance et réalise que ses perceptions sont parfois erronées ou du moins différentes de celles des autres. Son entourage remet même souvent en doute ce qu'elle dit, pensant qu'elle invente en raison de son imagination fertile. Elle a aussi enfoui un événement traumatisant, se créant une autre histoire, afin de la rendre plus acceptable. Entre cette réécriture, les mensonges qu'elle se raconte et les illusions qui volent en éclats, la réalité semble lui échapper. En perte de repère, Mélissa tente de reprendre pied, de s'ancrer dans sa vie. C'était les quatre incontournables de la saison littérature québécoise, une sélection d'Isabelle Beaulieu, Alexandra Mignot et Joséanne Paradis, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires.